On va à présent inviter le professeur, professeur de médecine gériatrique, président fondateur du Gérontopôle des Pays de la Loire, président également du think tank national des Gérontopôles, et vous avez remis un rapport ministériel sur les Gérontopôles. Aujourd'hui, vous allez vous intéresser au virage domiciliaire pour les personnes âgées malades d'Alzheimer et sur le devenir des EHPAD. Dans le fond, quel est l'intérêt de l'EHPAD pour un malade Alzheimer? Qu'est-ce qui fait qu'un malade Alzheimer ne peut pas faire autrement que d'aller en EHPAD? Voilà pour les présentations. Bonne conférence, merci.
Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, le virage domiciliaire, c'est-à-dire comment répondre à cette demande qui est très forte de chacun d'entre nous? Et dans ce cas-là, si on réussit, quelle est la place des établissements? Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Est-ce qu'un établissement n'est que l'échec du domicile? Eh bien, je vais essayer de vous présenter un peu l'actualité de ces réflexions-là. Et peut-être en introduction, sans faire trop long quand même, vous resituer dans le temps. Nous sommes en 2022. Ça, j'ai réussi ce premier test d'orientation, Claire. Et en fait, à partir de 2027, les plus de 84 ans vont augmenter de manière très importante jusqu'en 2040-50, pour être en plateau en 2060 jusque vers 2080 à peu près. Et on va redescendre sur notre état de 2015 vers 2100-110. C'est-à-dire, c'est la vague du baby-boom qui a bénéficié des soins, de la sécu, des progrès médicaux, d'une qualité de vie, d'une qualité d'alimentation, etc. Et qui fait qu'on vit plus longtemps et que cette augmentation de l'espérance de vie se poursuit tranquillement. Elle était sur un rythme de 3 mois par an. Maintenant, on est à 1 mois et demi. Mais enfin, ça se continue très, très bien. Et donc, on va, vers 2040, avoir 35% de la population qui aura plus de 65 ans. C'est une idée générale. Hein. Voilà. Cette population-là est de plus en plus en bonne santé. On arrête de travailler de manière régulière à temps plein, à peu près vers 55 ans en France. Entre 55 et 60 ans, il n'y a que 32% des personnes qui travaillent vraiment à temps plein de manière régulière. Au moment de l'âge légal minimum de départ à la retraite de 62 ans, il n'y a que 50% des gens qui sont vraiment au boulot de manière régulière et à temps plein. C'est toute la question, d'ailleurs, entre la question administrative de la date du départ à la retraite, voilà. La date où on a toutes les annuités pour pouvoir avoir la retraite à taux plein, et puis la réalité du travail. Parce qu'à 45 ans, dans une boîte de com à Paris, vous êtes un ancêtre. Donc, vous voyez, il y a cet écart-là. Et alors, les choses, en fait, ne concordent pas comme dans les années 80, au moment où on a décrété la retraite à 60 ans. Et il faut s'habituer, en fait, qu'il y a plusieurs registres avec des zones de grisée, des interrogations sur le travail qu'on partage tous avec le Covid, les visioconférences, etc. Voilà, l'appartenance à un métier, tout ça, ça bouge pas mal et ça ne va jamais s'arrêter. Ça, je crois qu'on est rentré vraiment dans autre chose. C'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes les histoires d'âge, en fait. Ça ne représente pas forcément nos vies. Bon. Donc, sur ce fond-là, évidemment, soit on crée une place de maison de retraite pour chaque personne âgée qui est en âge d'aller en maison de retraite, 85 et 4 mois. Et dans ce cas-là, alors là, il faut couvrir la France de maison de retraite. Mais ça va être un peu compliqué. Soit on se dit que finalement, on veut rester chez soi, coûte que coûte, ben, on reste chez soi, quoi qu'il arrive. Mais on voit bien que ce n'est pas non plus parfait. Et donc, il va falloir qu'on imagine, en fait, à la fois favoriser le domicile et en même temps, peut-être, une nouvelle place des établissements. Alors, sur ce virage domiciliaire, en fait, il y a des conditions pour que ça réussisse, ce virage domiciliaire. Une des premières conditions, ce qui est relativement simple, c'est que les logements soient adaptés. Alors, c'est vrai que ça se pose moins quand on est en ville, en appartement, avec un ascenseur, que quand on est à la campagne, etc. Mais en fait, c'est une génération de bâtisseurs de pavillons dans les années 70-80 qui ont couvert les régions suburbaines en France de pavillons. Et donc, quand on fait avec le Gérontopole des enquêtes géographie sociale sur qu'est-ce qui se passe pour les personnes âgées, eh ben, on a des quartiers entiers de veuves dans des grandes maisons vides. Et on se dit, bon, comment fait-on? Et c'est compliqué, en fait. Donc, ça, la question de l'aménagement du domicile, évidemment, correspond à une orientation qui a été affirmée récemment, hein, qui est la prime ADAPT. C'est-à-dire mettre quelques milliards d'euros sur la table pour favoriser l'adaptation. Mais en fait, entre donner de l'argent et avoir une adaptation qui soit correcte, qui soit adaptée, pas simplement à ce qu'on peut mettre comme argent, mais qui soit adaptée à la situation de la personne. Voilà. Là, il y a évidemment tout ce champ-là qui est à construire, qui n'est pas encore construit. Il y a la rénovation aussi des appartements à loyer modéré qui a déjà commencé, avec le milliard pour les douches italiennes qui a été fait par Julien de Normandie il y a à peu près 4 ans. Mais tout ça, on sent bien qu'on tâtonne sur cet aménagement du domicile. Ça serait trop long d'expliquer, mais disons que si l'un d'entre vous a envie d'aménager son domicile, c'est quand même compliqué, c'est un peu une forêt. Qu'il faut explorer parce qu'il y a des choses qui sont très visibles. Il y a des associations comme Solia qui peuvent aider. Le CCAS de la ville de Nantes qui peut conseiller, évidemment. Les CLI qui peuvent conseiller. Mais il y a aussi ce que votre caisse de retraite peut faire. Et quelquefois, elle peut faire beaucoup. Si vous êtes à la MGEN, par exemple, eh bien, vous pouvez faire des aménagements assez importants avec des moyens modestes. Je cite la MGEN parce que c'est un exemple clinique qui me vient en tête, mais enfin, il y a évidemment d'autres caisses de retraite. Je ne vais absolument pas faire de pub. Mais... Donc, en tout cas, ce n'est pas très facile de savoir quels sont les justes travaux qu'il faut faire, ce dont on a vraiment besoin. Et puis, on se rend compte assez souvent qu'il va y avoir un investissement important d'argent qui va modifier un rez-de-chaussée, suivi 3 mois après du départ de la personne en maison de retraite et d'une maison invendable, parce que c'est devenu une maison pour handicap, et les gens disent « j'ai pas envie d'habiter là ». Donc tout ça, c'est pas très simple. Deuxième point, ce sont les services à domicile. Alors les services à domicile, on peut s'enorgueillir en France d'avoir des services à domicile, qui sont nombreux, qui couvrent pas mal le territoire, qui font un travail remarquable. Je crois que vraiment tout le monde est unanime sur la qualité relationnelle, technique, l'attention à l'autre. Voilà, c'est vraiment un travail on ne peut qu'admirer. Mais en même temps, on est impacté par simplement, je dirais, des métiers qui n'ont pas été valorisés au moment où il fallait le faire. Des parcours de formation qui n'ont pas été mis en place, une interrogation sur le travail qui traverse toutes les organisations. Et donc, on a des ADMR qui se retrouvent avec 50% de leur personnel en 2-3 mois parce que tout le monde a changé de métier, a envie de faire autre chose, etc., etc. Et donc, c'est un secteur qui est très, très fragilisé, pour lequel il faudrait évidemment qu'il y ait... qu'il y ait une politique sur le travail du service à la personne, quel que soit le champ d'ailleurs, qu'il faudrait repenser. Le ministre de l'Autonomie, Jean-Christophe Combe, a annoncé la création de la fabrique du bien vieillir. Alors là, on sent bien le vocabulaire de la rue de Ségur. Et donc, cette fabrique du bien vieillir a un volet emploi et métier, pour lequel ça a été confié à Mme El Khomri, qui avait fait un rapport qui était très bien en 2015. Donc voilà, on relance la machine, mais on a perdu quand même pas mal d'années, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, il faut repartir là-dessus. Mais le problème, c'est que de retarder, en fait, ces politiques qui donnent des fruits à long terme, on se retrouve avec des délais qui font qu'aujourd'hui, on a une précarité des personnes qui sont à domicile vis-à-vis du service qui leur sont rendus et vis-à-vis des organismes de services à domicile. Il ne faut pas tout noircir comme ça, gentiment, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est très, très fragilisé. Et quelquefois, je reçois des coups de fil de personnes vues en consultation qui me disent « mais je ne trouve personne pour venir à la maison, hein, tout simplement. » Donc on bricole, on fait machin, mais on fait que faire. Donc, le virage domiciliaire, il réussira s'il y a des services à domicile. Et puis, il faut un territoire efficient. C'est quoi un territoire efficient? C'est un territoire qui, non seulement a des moyens, mais en plus, qui est efficace. Alors, on a la chance, et ça a été rappelé en début de séance, et par l'intervention de M. Michel Laurent, on a l'avantage à Nantes d'avoir une ville qui est mobilisée sur ces questions-là, vraiment, et qui sont vraiment des partenaires de tous les jours pour les personnes, et qui, je dirais, fait ce qui est possible de faire pour faciliter une coordination des acteurs autour du domicile. On n'est pas aidé par des décisions qui ne viennent pas du tout de la ville, qui sont des décisions d'organiser les professionnels autour de dispositifs qui n'ont pas du tout démontré leur efficacité, qui sont liés à la bonne volonté des professionnels, et je ne vois pas pourquoi un service rendu à la population dépendrait de la bonne volonté des professionnels, avec un mot très chic du ministère qui s'appelle l'empowerment des territoires. En français, c'est « démerdez-vous ». Sinon, en plus chic, c'est que chaque territoire trouve dans son énergie ses dynamiques qui vont faire que ça va mieux se passer. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait une organisation régalienne du territoire. Et ça, c'est vraiment une question. Alors, on reste pas vissé sur notre chaise là-dessus, notamment à Nantes, avec la ville de Nantes et le CHU, par exemple, il a été décidé de créer un cadre de coopération qui sera amené à s'élargir des acteurs qui veulent y rentrer. Donc voilà, on peut être en tant que citoyen actif pour que ça avance, mais ça n'aide pas qu'il n'y ait pas un cadre. En 2002, c'était l'époque de Martine Aubry, il avait été décidé les clics. Alors les clics ont mis du temps à s'installer, il a fallu 10 ans avant que... voilà. Mais ils font un travail remarquable. Il faudrait avoir cette même énergie, cette même tenacité en disant on va faire une organisation territoriale. Mais en fait, ça n'arrivera jamais. Donc, un peu, je raconte aux étudiants quand je leur parle de ça, en fait, en matière de politique médico-sociale, eh bien, le bonheur que l'on vit, il faut se le construire. Mais pas tout seul, avec les autres. Mais là où on vit, il faut créer les conditions pour bien vivre. Donc, on est vraiment mis en responsabilité. Et il ne faut pas qu'on attende, en fait, qu'il y ait une loi qui règle le problème. Alors, c'est très bien le domicile, mais assez souvent en consultation, j'entends des propos du style « Ah, je viens de rentrer en maison de retraite, c'est génial. Je rencontre des gens en permanence, je m'assois, hop, ça y est, on me sert, je n'ai pas eu besoin de faire les courses ou de préparer, j'ai aucune inquiétude. Le soir, eh ben, je me sens en sécurité. » Mais pourquoi je ne suis pas rentré plus tôt? Et là, évidemment, je dis, mais ça fait 3 ans qu'on vous dit que ça serait bien d'y rentrer. En fait, on a un problème avec le domicile, et ça a été très bien pointé, d'ailleurs, dans le conseil scientifique d'une initiative de la mairie qui s'appelle Divadom, c'est que le domicile est aussi un lieu de solitude. Et alors, en fait, on a plusieurs solitudes là-dessus. Il y a une solitude que l'on auto-fabrique quand on a des troubles cognitifs. Parce que quand vous avez un peu de troubles de mémoire, que vous cherchez vos mots, que vous n'êtes pas sûr de comprendre ce qu'on vous dit, évidemment, ça ne vous donne pas une force suffisante pour aller vers les autres. Donc il y a une sorte de retrait, parce qu'on se juge incompétent, en fait, enfin sans se le dire. Donc on n'ose pas trop rentrer en relation. Donc on fabrique un peu de l'isolement. Après, il y a évidemment... la ville, la grande ville, dirait Émile Verhaeren, source de solitude et de joie. Et donc, forcément, la grande ville peut être aussi quelquefois déshabitée. Et puis, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec cet isolement, c'est le sentiment de solitude. Et ce sentiment de solitude, c'est la manière de vivre cet isolement. Et qui, là, relève un peu d'un répertoire qu'on va dire un peu dépressif, avec une perte d'estime de soi, et qui est très destructeur. Donc, il ne faut pas tout mettre... C'est ce que je reproche un peu dans les enquêtes des petits frères des pauvres, quand ils parlent de la mort sociale, parce qu'on dit 3 mots par semaine, etc. On met tout dans un même sac. Alors ça donne des chiffres énormes, et voilà. Mais il faut quand même distinguer ce qui est isolement de ce qui est sentiment de solitude. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et en tout cas, la manière d'y répondre n'est pas la même. Mais là aussi, évidemment, qu'est-ce qui va faire qu'en étant à domicile, on ne va pas se sentir seul ? C'est une politique des quartiers, peut-être, sûrement, mais c'est aussi une citoyenneté du voisinage. On a une association qui s'appelle Mona Lisa qui le fait, mais finalement, quand on réfléchit à cette question, c'est tout simplement notre responsabilité individuelle à chacun. Si en tant que citoyen, on ne se sent pas concerné par un voisin qui est isolé, on a un problème avec notre citoyenneté, en fait. Et ça, c'est quand même, on ne peut pas non plus, rester là-dessus en se disant il va y avoir une organisation qui va le faire. Et puis après, il y a le problème du coût du domicile. Parce que souvent, l'argument, c'est de dire, ouais, les EHPAD, ça coûte cher, donc à domicile, ça ne va pas coûter cher. Il y a une étude canadienne qui date d'il y a une vingtaine d'années, où ils avaient pendant 5 ans essayé d'évaluer les coûts de quelqu'un en EHPAD et de quelqu'un à domicile. Alors quand vous y rajoutez tout ce qui se passe à domicile, les hospitalisations à répétition, toutes les démarches qui sont faites pour étayer le domicile, etc., plus toutes les interventions qu'il faut financer quelquefois, plusieurs fois par jour, à la fin, en fait, l'ardoise est beaucoup plus salée pour le domicile que pour l'EHPAD. Parce qu'à l'EHPAD, comme vous avez une concentration, vous avez une mutualisation des moyens, et vous avez une réduction sur les surfaces, sur les organisations, etc. Donc, le domicile, en fait, est une politique de luxe qui est coûteuse. Il faut qu'on arrête de penser que le domicile, ça va être moins cher. Alors, je ne veux pas être désagréable, mais pour avoir été président de Allo Maltraitance pendant quelques années, il faut que je rappelle quand même que la maltraitance, 2/3 des cas de maltraitance, c'est à domicile. Et 1/3 en établissement. Donc le domicile n'est pas forcément un paradis. Ça dépend de quoi on parle et de quel contexte. Des contextes familiaux qui sont compliqués, avec quelquefois des asymétries de revenus entre générations et plein de choses qui peuvent être très très compliquées qui s'y passent. Et quand on voit que Allo Maltraitance est une association 1901, on peut s'interroger pourquoi ce n'est pas des représentants des collectivités ou de l'État, comme l'ARS, qui est en charge de ce travail sur les maltraitances. Pourquoi c'est une association 1901 avec très peu de moyens? Donc là aussi, on n'est pas très mûr sur le virage domiciliaire, parce qu'il faut l'assumer jusqu'au bout, ce virage domiciliaire. Et puis, il y a le recours aux services de santé. Ça veut dire quoi, rester à domicile? Ça veut dire téléphoner à son médecin le vendredi à 19h pour se retrouver aux urgences, en attendant jusqu'au samedi matin que quelqu'un passe. C'est 8 heures d'attente sur un brancard dès qu'il se passe quelque chose et qu'on appelle le médecin. Ça, ce n'est pas un succès, le virage domiciliaire. Donc, dire qu'on va faire un virage domiciliaire avec 35% de la population qui a 65 ans, plus de 65 ans, donc en gros presque 10% de la population qui va être dans les risques au-dessus de 80 ans, ça veut dire quand même qu'on a des services de santé qui fonctionnent, on a une permanence des soins de ville qui fonctionne. Bref, vous savez bien, je ne vais pas faire le détail, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Et donc ça interroge également. Il faut l'assumer, le virage domiciliaire également, en termes de santé. Il y a un point qui peut vous sembler un gadget, mais en fait, qui va être complètement central. C'est l'apport des technologies pour rester à domicile. Alors, parce que pour vous, technologie égale gadget pour geek qui joue aux jeux vidéo, ou bien d'un ordinateur qui nous casse les pieds quand il faut payer l'EDF. Mais en fait, la nouvelle informatique avec l'intelligence artificielle, la possibilité d'avoir des capteurs multiples, ce genre de petit joujou-là, par exemple, qui peut enregistrer l'oxygène, le rythme cardiaque, la pression artérielle, etc., le nombre de pas et tout. Alors on peut dire, oh là là, je suis fliqué. Mais ça peut être aussi un formidable moyen de pouvoir bénéficier au moment de la prévention, à temps voulu, des aides, des interrogations, de pouvoir aussi avoir de meilleurs soins. Ce n'est pas le lieu ici que je puisse le développer jusqu'au bout et vous convaincre, mais essayez de mettre dans votre tête une petite case, informatique, intelligence artificielle, c'est peut-être positif. Parce que je pense que, en fait, ça sera une des conditions pour que, étant donné l'évolution des métiers, l'évolution des nouveaux médecins qui ne travaillent pas de la même manière que les anciens, l'évolution des coordinations, des équipes mobiles, etc., ça sera le moyen de faire une harmonisation et de permettre de suivre une personne correctement. On le faisait, alors moi j'ai quelques passés médicaux, et dans les années, fin des années 80, on suivait 4000 diabétiques avec des petits récepteurs et le Minitel. Alors ça peut vous faire sourire, vous voyez, mais en fait, on savait dès que quelqu'un était en train de déraper sur son diabète et on pouvait l'aider. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, cette affaire-là, et en fait, ça marche très bien. Donc, alors évidemment, il faut le respect de l'intimité, etc. Mais on ne pourra pas faire sans qu'il y ait une sorte de relation d'une médecine numérique qui ne se résume pas à la télémédecine. La télémédecine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et les intelligences artificielles, en fait, c'est vraiment une manière complètement différente de concevoir en fait, cet apport du numérique. Voilà le virage domiciliaire. Donc c'est un souhait. 95% des gens de 65 ans les interrogent, ils veulent rester chez eux jusqu'au bout, etc. Bon, très bien. L'État a dit, puisque les citoyens veulent, faisons ce virage domiciliaire. Très bien. Et tout le monde dit, ça c'est le paradis, et les EHPAD, bouh, c'est moche. Bon, très bien. Mais maintenant, il va falloir quand même construire quelque chose pour pas qu'il y ait une trop grande perte de qualité de vie. Et qu'on ne se retrouve pas avec des multiples hospitalisations pour chute en cascade de gens qu'on ne sait plus mettre où, et qu'on se retrouve dans une situation finalement de mépris et de mauvais traitement. Alors, on arrive aux établissements médico-sociaux là-dedans. Ben, les établissements médico-sociaux là-dedans, ils vont évoluer. En fait, depuis leur création en 2002, les EHPAD ont complètement changé de population. En 2000, c'est pas en 2002 d'ailleurs, c'est en 99 et la loi après a été signée en 2000. Et Michel Laurent me fait oui de la tête, donc ça doit être ça. 2002, c'est l'appât. Les EHPAD, à l'époque, en fait, on avait des personnes qui étaient en GIR 5, GIR 4, GIR 3, voilà. C'était un lieu de vie, on faisait de l'animation. Le dimanche matin, on venait jouer un peu de musique. Enfin bref, il se passait plein de choses, c'était voilà, très bien. Et puis, progressivement, en fait, pour que le budget soit au rendez-vous, il fallait que les gens soient de plus en plus dépendants. Donc, plus on accumulait des personnes avec des dépendances lourdes, plus le budget montait. Donc, on pouvait payer les salaires. C'est quand même intéressant de faire monter le budget. Et donc, on s'est retrouvé 15 ans après, oui, c'est ça, non, même moins, 10 ans après, sur le fait que les EHPAD avaient un niveau de dépendance qui ne correspondait plus aux moyens humains qu'on pouvait mettre en place. Et d'autre part, que les moyens de gestion n'étaient pas adaptés. Le constat est fait au moment de la rédaction du plan Alzheimer 2007-2012. Et un projet de loi vieillissement réformant les EHPAD est sur le tapis en 2009 pourrait passer à la Chambre. Et puis, en fait, il ne s'est rien passé parce que c'était la deuxième rechute de la crise économique de 2008. Et il a été décidé que la loi vieillissement, on verrait ça plus tard. On est en 2022 et en fait, ça n'a pas changé. Alors, les difficultés constatées en 2010 se sont évidemment aggravées parce que mécaniquement, vieillissement de la population, etc. Et donc, aujourd'hui, on est sur un système qui est dans une interrogation. En fait, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour dire que l'EHPAD de demain, si les personnes restent plus longtemps à domicile, l'EHPAD recevra des gens encore plus fragiles. Logique. Il faut savoir que les GIR 2, qui sont quand même des gens dépendants, 45% d'entre eux sont à domicile. Donc, on ne rentre plus en EHPAD parce qu'on est dépendant. On rentre en EHPAD parce qu'on a une dépendance qui est associée à des troubles cognitifs qui font qu'on n'a pas la capacité sociale d'être chez soi, qui peuvent se traduire soit par des troubles du comportement, soit par une inadaptation sociale. C'est les fameux troubles exécutifs dont j'avais eu le plaisir de vous parler il y a un an ou deux, je ne sais plus. Donc, on a un établissement qui sera finalement un établissement pour personnes âgées ayant une altération cognitive, et donc qui doit être un lieu de soins, mais de soins cognitifs, et être en même temps, évidemment, un lieu de vie. Et c'est ça le challenge, en fait. Alors, dès qu'on dit soins, médecine, on pense comprimés, piqûres, voilà. Là, il ne s'agit pas de ça. Le traitement, en fait, c'est de pouvoir remettre la personne dans une aptitude cognitive. Et la cognition, c'est notre interface avec notre environnement et puis aussi l'interface avec nos capacités internes. Dans ce cas-là, on voit bien que ce qu'on a appelé les traitements non médicamenteux, qui à un moment s'appelait stimulation cognitive et qui est avec un niveau de preuve encore faible, etc., est probablement en fait l'axe majeur des soins d'un EHPAD. Quand quelqu'un vient faire de la musique, on dit que c'est de l'animation. C'est faux. Ce sont des soins. Quand vous faites travailler avec un memory des personnes pour jouer comme ça, ou même en jouant au jeu de loi, etc., en fait, on fait de la cognition. Donc, il n'y a pas d'animation en EHPAD, en fait. Il y a un soin, mais un soin qui est, on va dire, écologique, c'est-à-dire qui interfère avec l'environnement, dans son environnement. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui donnent l'argent aux EHPAD ne concernent pas l'animation, montrent bien qu'on n'a pas compris grand-chose de ce qui s'y passait, en fait. Il faut aussi une évolution, et donc l'évolution des résidents, c'est aussi des gens qui ont des maladies chroniques de plus en plus graves, qui vont décompenser souvent. Donc il va falloir médicaliser au sens de pouvoir répondre à des demandes qui ne passera pas forcément par le médecin. Ça peut être des infirmières formées à cela, infirmières de pratique avancée, coordination, etc. Il y a une évolution aussi des professionnels. Il faut que tout aide-soignant ait une formation sur la cognition. Il faut que toute infirmière puisse rentrer dans cette dynamique et ne soit pas confinée à faire des piqûres. J'exagère, mais c'est presque ça. Et il faut que les métiers de la rééducation se varient et rentre en interpénétration avec le travail de l'équipe. Donc, en fait, il faut repenser, il faut oxygéner les choses, il faut repenser une équipe de saltimbanques qui sont là pour qu'on soit heureux et qui s'appellent l'équipe de soins. Il faudrait qu'ils se sentent presque troupe de théâtre. Vous voyez ? C'est, au lieu de se dire « je suis très compétent et je vais exercer ma compétence maintenant », il faut qu'on arrête avec ça. Il faut vraiment que, voilà, on soit là pour que ça soit un lieu de vie avec des interférences relationnelles, fortes, riches, etc. Et puis, évidemment, il va falloir faire évoluer le cadre administratif et financier des EHPAD. C'est-à-dire que là, il faut repenser le système, les modalités de financement. Mais bon, tout le monde le dit en ce moment, donc voilà, pas besoin. Donc, finalement, il faut revoir aussi le territoire. Il faut que l'EHPAD puisse se situer dans son territoire, qu'elle soit vraiment un lieu, voilà. Il faut revoir les formations des professionnels, il faut revoir les compétences métiers. Alors, il existe évidemment des initiatives. Je parlais tout à l'heure de DIVADOM. Ce sont quelques places de personnes qui devraient aller en EHPAD et qui sont chez elles, et pour lesquelles la mairie de Nantes a candidaté à une expérimentation pour qu'elles puissent rester chez elles. Alors, c'est de l'expérimentation, ça se fait aussi dans d'autres endroits. On va voir ce que ça donne, mais probablement qu'il va falloir faire un étayage du domicile avec des professionnels, peut-être aussi des technologies. En tout cas, tout faire pour que ça soit un lieu de vie, pas un lieu de solitude, et que ça soit un lieu sécurisé et pas d'abandon. Donc voilà, en fait, c'est un défi. Et peut-être il y a une dernière diapo que je vais vous montrer. Ce sont des réflexions que j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière. J'ai écrit ce bouquin au printemps dernier. Il est sorti il y a 8 jours, donc c'est récent. Et ça, en fait, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour vieillir dans la dignité ? Mais en fait, pour vieillir dans la dignité, alors il y a des choses qui correspondent à ce que nous, on porte pour être digne, le devenir et l'être. Mais il y a aussi un travail collectif, je veux dire, politique. C'est-à-dire que la dignité ne se décrète pas parce qu'on a envie d'être digne. Il faut aussi que les conditions de vie dans lesquelles on vit nous permettent de l'être. Et donc, c'est vraiment un enjeu qui est personnel et collectif. Et peut-être que la dignité en vieillissant est un bon argument pour la reconnaissance des personnes âgées et pour qu'on ne perde pas l'estime de soi parce qu'on est âgé. On est là aussi comme citoyen et digne de l'être. Je vous remercie pour votre attention.